France Culture. Cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Le mystère de la robe de chambre qui faisait disparaître les corps. Quel formidable titre pour un roman feuilleton de ceux qui plaisaient tant au XIXe siècle dans la veine du merveilleux scientifique et pourquoi pas du merveilleux artistique. Une histoire de dérobade avec Rodin et Balzac en robe de chambre. Une histoire de corps invisible. Balzac, Rodin, splendeur et misère d'une robe de chambre. Une aventure à corps perdu.
Rodin appartenait aux générations qui s'enchantaient des romans de Balzac dès leur publication. Et quand la Société des gens de lettres lui commande une statue de l'écrivain, il s'en réjouit. D'étude en étude, il finit par aboutir à ce visage fantastique qui a la grandiose expression non plus d'un homme, mais du génie. Avant de déterminer l'attitude de son sujet, Rodin exécute plusieurs esquisses. Il pousse même l'étude d'un Balzac nu jusqu'à un point complet d'achèvement. Pour laisser au visage de Balzac toute son expression, le sculpteur, renonçant à toute fioriture, recouvre le corps de l'écrivain de sa classique robe de chambre. Rodin se rend compte que son œuvre heurte tous les préjugés, mais en le faisant, il vérifie cette loi formulée par Delacroix : être hardi quand on a un passé à compromettre, c'est le plus grand signe de la force. La Société des gens de lettres eut beau refuser la statue, elle finit par s'imposer pour la plus grande gloire des deux maîtres.
La plus grande gloire des deux maîtres. Bonjour Marine Kiziel.
Bonjour.
2 mètres, 2 mètres 70 à peu près, la statue qui est exposée à Paris, celle de Balzac par Rodin. Elle est impressionnante, hein, cette statue, elle se trouve où ?
Alors cette statue, elle se trouve où l'on veut la trouver. Elle se trouve, pour commencer peut-être, quand on sort du métro Varennes, presque touchant le sommet de l'arche et de la voûte sous laquelle passe le métro. Elle se trouve dans les jardins du musée Rodin, elle se trouve au musée d'Orsay en plâtre, en dépôt du musée Rodin, elle se trouve à New York, à Tokyo, à Londres, elle se trouve dans tous les musées qui ont accueilli ce grand monument de bronze, dont la version en plâtre ici nous rassemble.
Marine Kiziel, vous êtes historienne de l'art, de la mode, conservatrice en charge du département mode du 19e siècle au Palais Galliera à Paris et co-commissaire de l'exposition au musée Rodin, Corps invisibles. Avec, ici, vous l'acceptez, de nous conduire dans l'aventure, parce que c'est une aventure incroyable.
Une aventure et une enquête, j'accepte, Xavier.
Formidable. Cette enquête, on va la commencer en 1891, en écho à l'archive que nous venons d'entendre, c'est une archive de 1954, hein, qui évoquait ce moment où la Société des gens de lettres décide l'érection d'un monument en hommage à Balzac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
C'est une histoire qui commence un tout petit peu plus tôt, parce qu'en fait, la Société des gens de lettres, en 1883... entame, comme on le fait au XIXe siècle, avec un grand élan, beaucoup d'enthousiasme et puis des retards qu'on ne veut pas s'imaginer de voir arriver, l'idée de faire souscrire tout un chacun pour ériger effectivement un monument au grand homme du roman XIXe, qui n'avait jusque-là pas sa sculpture à Paris, ce qui choquait ses turiféraires. Ce grand homme, c'est Balzac, et la Société des gens de lettres qu'il avait effectivement participé à fonder se met à vouloir honorer sa mémoire au lendemain, en fait, de la mort de la veuve de Balzac, qui jusque-là empêchait toute érection des statues célébrant son grand homme, que semble-t-il, elle voulait garder sien.
Balzac était mort en 1850, nous sommes longtemps après, mais c'est vrai que Madame Anska est morte peu de temps auparavant. Désormais, il est possible, il est imaginable de réaliser cette statue. Et d'ailleurs, pour vous, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la statuaire, l'importance de la statuaire dans l'univers parisien, et pas seulement parisien, il faut le souligner sans cesse, des statues, il y en a partout au XIXe siècle.
Effectivement, la statuaire publique qu'on appelle au XIXe siècle est désormais une statuaire aux grands hommes, dans la veine de la, vous savez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, comme au fronton du Panthéon. La statuaire publique, c'est une grande passion du XIXe siècle, qui est un siècle d'idées, mais aussi d'un siècle d'idées changeantes. Et quand on veut célébrer des valeurs, les incarner par la chair, mais qui est une chair pérenne, donc de marbre ou plus généralement de bronze. Généralement au 19e, on rassemble des fonds, on trouve un sculpteur, on lui commande une œuvre, il la livre, on l'inaugure en grande pompe en ayant revêtu ses plus beaux habits. C'est ce qui fait le bonheur des comités et en fait une certaine passion de la comitite. Et après cela, généralement, chacun se retourne chez soi. Mais c'est ce qui ne va pas se passer puisque les gens de lettres font face à différents soucis. Le premier d'entre eux, c'est qu'après 1883 et leur souscription, ils passent commande de la sculpture à un homme qui va mourir avant de l'avoir livré, Chapu. Et c'est donc, pour revenir à nos dates et à ce que vous disiez, Xavier, 1891, le moment où la Société des gens de lettres, ayant entériné le fait que Chaput ne livrerait jamais son œuvre, qu'elle se tourne donc vers Rodin.
1891, parmi ces gens de la Société des gens de lettres, il y a Émile Zola, hein, qui est ici le moteur de cette demande.
En 1891, Zola a très opportunément fait une OPA sur la Société des gens de lettres. Il a, depuis un certain nombre d'années, réclamé une statue à Balzac, sans doute comme on se réclame un ancêtre, en disant qu'il faut réparer un affront et qu'on a Dumas dans les rues et pas Balzac, et que c'est une catastrophe. Et il se drape lui-même en grand homme. Quand on célèbre un autre, souvent on parle aussi un petit peu de soi, et c'est d'ailleurs ce qui va arriver à Rodin. Et effectivement, il manœuvre très habilement pour que un statuaire qu'il respecte, qu'il admire, Rodin, soit celui à qui on confie le monument.
Pourquoi Rodin d'ailleurs ?
Pourquoi Rodin ? C'est une très bonne question et c'est une excellente chose de la poser en ces termes en 1891. Parce que Rodin est l'homme d'une carrière qui a commencé bien plus de 20 ans auparavant, mais à un moment charnière, la statuaire en général est un sport lent et long et c'est une pratique en fait qui demande du temps. Et Rodin, qui sera pour nous le grand sculpteur du 19e siècle, en 1891, n'est pas encore celui de beaucoup de chefs-d'œuvre aboutis. Et effectivement, il faut un tout petit peu de prescience, en même temps que comprendre que tout germe dans la carrière de Rodin à ce moment-là, pour lui passer commande de ce Balzac. Mais la Porte de l'Enfer, les grands monuments que nous connaissons ne sont pas encore exactement inaugurés et arriveront plutôt à la fin des années 90 et au tournant du siècle.
Avec ici un artiste hein, déjà reconnu, cet artiste-là, c'est Auguste Rodin. Une vraie histoire qui nous conduit à réfléchir à tant et tant de choses autour de cette robe de chambre. On ne sait jamais hein, si c'est celle de Balzac ou si c'est celle de Rodin.
Absolument.
C'est cette mise en abîme qui est sensationnelle. Avec, en 1891, Rodin qui se voit confier cette œuvre. Qui est Rodin à ce moment-là ? C'est un homme qui a déjà été repéré, peut-être aussi en partie parce qu'il innove. Ce qui veut dire qu'il fait scandale.
Nous voici devant l'un des plus évidents chefs-d'œuvre de Rodin. Cette merveille est intitulée « L'âge des reins ». Et à l'époque où Rodin l'a faite, c'était une révolution et une révélation. Et pour le dire en d'autres termes, ça foutait tout par terre, car en effet, c'était une dénonciation, et ses confrères académiques officiels ne savaient plus où se fourrer. Alors de quoi l'accusa-t-on ? D'avoir fait un moulage, oui, d'avoir moulé le corps d'un jeune homme. Ignoble accusation qui ne tint pas debout. Ses praticiens et ses intimes, et le modèle enfin lui-même, apportèrent leur témoignage. Et de gré ou de force, il fallut bien le reconnaître, l'œuvre était de Rodin et c'était un chef-d'œuvre.
En 1954, Sacha Guitry, on connaît sa voix toujours dans « Cent merveilles », nous raconte « L'âge des reins ». Par Rodin, une œuvre de 1877. Donc on est un petit peu avant et on entend ici l'évocation du moulage. Nous sommes désormais face à ce champ artistique complexe, celui de l'Académie des Beaux-Arts, celui de l'École des Beaux-Arts, et Rodin qui aurait osé mouler un corps.
C'est une vraie controverse du 19e siècle, cette question du moulage, parce que le 19e siècle moule. Tout à trac, du petit serpent, du lézard, à la mode de Bernard Palissy, jusqu'au corps des courtisanes. C'est Clésinger, 1847, au salon, qui fait scandale, avec sa femme au serpent, au prétexte mythologique scabreux et presque invisible, et qui est surtout, en fait, en train de célébrer le corps de la muse et de la maîtresse, surtout d'un banquier qui lui commande la statue. Et donc le 19e aime s'emballer en ayant lui-même emballé les corps dans pas mal de plâtre, de chanvre et de structures qui permettent d'en garder l'exacte forme. Et effectivement, en 1877, on accuse Rodin de n'avoir pas fait de l'art, mais simplement le moulage, donc d'un corps presque à l'échelle exact, qui est celui d'Auguste Ney, le soldat qu'il a fait poser. Et en fait, c'est très dangereux pour celui qui n'est plus un jeune homme, 37 ans, mais qui est un jeune sculpteur encore, puisque jusque-là, il est ornemaniste davantage, Rodin, puisque Rodin voit sa carrière quasiment auprès de s'achever, le scandale pouvant en complètement l'emporter. Et effectivement, il est défendu par ses pairs et il s'impose il impose son œuvre comme n'étant pas un moulage, mais bien une œuvre de la main, c'est-à-dire aussi de l'esprit dans la grande tradition des beaux-arts et la vision française de tout cela. Et en fait, on n'y reprendra plus jamais. Plus jamais ensuite, Rodin n'est aussi naturaliste, c'est-à-dire fidèle à la vérité d'un corps qu'avec l'âge des reins. Et plus jamais l'échelle 1 exactement ne sera à son affaire. Et c'est ce qui nous intéresse sans doute aussi ici, puisque quand On y viendra plus tard, mais Rodin trempe une robe de chambre dans le plâtre. C'est la robe de chambre d'un corps qui a existé, c'est-à-dire peut-être la sienne, je n'en sais exactement rien. Mais c'est une robe de chambre qui dit l'échelle 1. Et effectivement, ce retour près de 20 ans plus tard, un petit peu moins, à une potentielle échelle 1 par le moulage, est presque une facétie dans la carrière de Rodin, dont évidemment, à ce moment-là, il ne cherche pas à faire une œuvre définitive. Il sait trop ce que cela peut... amener de danger.
Avec cette enquête qui avance peu à peu grâce à vous, Marine Kiziel, et vous l'avez évoqué, Rodin, ornemaniste, c'est un métier, c'est une forme d'art. On peut vous rappeler ce que c'est ?
Oui, on peut le faire parce que c'est un beau métier. C'est un métier de la main qui consiste en fait pour beaucoup de sculpteurs à orner. Ce qui est aujourd'hui notre quotidien. Le statuaire va mettre effectivement des monuments publics, on en a parlé il y a une seconde, dans la rue grâce à des comités, mais l'ornemaniste, lui, est celui qui nous vaut d'avoir des cariatides sur les hôtels haussmanniens, les immeubles haussmanniens, d'avoir des frises de grec, des frises de torf, des frises de... Vous voyez, de toutes sortes de fleurs, de motifs, en fait, ornementaux. Sur les monuments, notamment.
Vous êtes l'autrice de la peinture impressionniste et la décoration. En écho, peut-être, à ce qu'on vient de dire là, parce que dans la hiérarchie des arts...
Décorer,
c'est pas top, hein.
Effectivement.
Et que ce soit pour Rodin, par la sculpture, ou que ce soit par la peinture pour d'autres, ici, on a un genre qui est un peu décrié. Ça met en place tous les éléments pour saisir qui est Rodin à ce moment-là. Un scandale autour du moulage avec l'âge des reins, sa carrière passée autour de l'ornementation, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour saisir ensuite ce qui va se passer avec la statue de Balzac.
Et effectivement, parce que parler d'ornementation, parler de décoration, c'est parler, on vient de dire, du high and low, c'est parler de la hiérarchie, en fait, et de ce qu'on considère, et particulièrement au 19e, comme étant acceptable et de l'ordre du grand art, ou regardable mais secondaire, et qui est de l'ordre de la décoration, du décoratif ou de l'ornement. Et la carrière de Rodin, effectivement, elle passe de la sphère des ornementations ou des ornemanistes vers la grande statuaire. Et effectivement, les monuments publics sont aussi l'endroit, non pas seulement où célébrer les grands hommes, mais où se faire une place parmi les grands sculpteurs. Et c'est ce à quoi s'emploie Rodin dans les années qui nous intéressent.
Avec ici une commande, très bien, il l'accepte tout de suite, il est content.
Il l'accepte d'autant plus qu'il a un petit peu participé aux manigances de Zola et que, bien sûr, il est extrêmement content parce que c'est une commande prestigieuse.
Pour avoir un repère un peu chronologique, quand il accepte la statue de Balzac, le penseur a déjà 10 ans, c'est à peu près ça, hein, le penseur, c'est les années 1880.
Oui, le penseur est déjà dans l'atelier comme tant d'autres choses, en fait, parce que Rodin est un homme qui crée très lentement, et les gens de lettres vont s'en rendre compte à leurs dépens. C'est aussi déjà l'homme de la porte de l'enfer, mais il ne la révélera, et d'ailleurs sans figure, qu'en 1900. En fait, c'est l'homme d'une génétique des formes, Rodin, très lente, et qui est faite, et c'est aussi la beauté de la sculpture, de marcottage, de raboutage, de formes que l'on découpe. Rodin, c'est l'homme des abatis. Vous allez dans les réserves du musée Rodin et vous découvrez des tiroirs de bras, des tiroirs de mains, des tiroirs de jambes. Et la pratique de la sculpture de Rodin n'est plus la seule fidélité au réel très rapidement, mais un ensemble d'associations, presque d'idées aussi. Hein. C'est un palimpseste comme ça de corps, de formes qui se recouvrent et qui vont toujours en créer de nouvelles. Et ça, c'est important fin 19e, dans ce siècle de Bergson, du flux de la conscience. Les formes sont plastiques et se transforment et disent bien d'autres choses. Et on aboutira à la fin du siècle à cette grande idée du symbolisme qui est encore là, une transformation qui se finit dans la tête et dans les yeux du spectateur.
Parce que ces formes plastiques, c'est également ce qui mène l'enquête. L'enquête que vous, Marine Kiziel, vous avez menée autour de la robe de chambre. Mais qui correspond à l'enquête que Rodin lui-même a menée. Et c'est en cela que c'est fascinant de se plonger dans cette aventure. 1891, il accepte de faire une statue de Balzac, sauf que Balzac est mort depuis 1850. Ça va être difficile de le faire poser. Comment procède Rodin ?
Rodin, effectivement, mène une enquête et c'est ce que j'ai fait à sa suite parce que j'avais envie de me remettre dans ses traces pour comprendre comment les choses s'étaient passées et où elles avaient... où étaient les points d'achoppement. On lui commande une sculpture, un monument à Balzac, et puis il dit « Je ne veux rien commencer avant d'avoir rassemblé le plus de documents possible. » Et ce mot « document » est important. Donc il se rend chez un vicomte bruxellois dont les collections sont aujourd'hui à l'Institut de France, qui est un monomane de Balzac, il faut le dire ainsi, qui a 90% des manuscrits, mais qui a aussi des mèches de cheveux, du papier jauni, autrefois bleuté. Enfin, vous voyez, on est dans le culte de la relique. Et qui lui délivre, en fait, ce qu'il a de relique, justement, 10 ans Balzac, mais c'est une image diffractée. Les manuscrits, ça n'est pas l'image d'un homme, et moins encore son corps. La caricature, la gravure de presse sont des documents qui intéressent Rodin, mais qui ne disent pas davantage le corps tridimensionnel. Donc Rodin se rend ensuite en Touraine, va rechercher dans cette idée du 19e que quand on est né quelque part, on ressemble au type de sa région, va rechercher un corps qui lui semblerait approché de celui qu'il se figure être un corps possible de Balzac. Il trouve un charretier tourangeau, alors là, abolition complète des hiérarchies, et ce charretier ventripotent, corpulent, relativement petit, il le fait poser. Puis dans la grande tradition des modèles d'atelier, tel que le raconte l'histoire de l'art, le modèle s'en va, le sculpteur a tout perdu, il faut tout recommencer. Et ce charretier, on n'en connaît que le nom, Estager, et même pas le prénom. C'est aussi l'anonymat du petit peuple des modèles, c'est-à-dire des pauvres qui posent et qui se dénudent et qui acceptent de le faire pour que la sculpture puisse se mettre à émerger. Et puis Rodin ensuite se rend, et c'est là où mon enquête m'a mené dans des parages qui jusque-là n'avaient pas été observés, se rend Rodin chez le tailleur de Balzac et tente de déjouer les anachronismes et surtout les conditions donc d'élaboration de la statuaire publique, puisque vous l'avez dit, Balzac est mort depuis presque 40 ans, un petit peu plus. Et il se rend chez le tailleur, le vieux tailleur, qui fut autrefois le jeune tailleur de Balzac, et il lui demande de refaire pour lui un costume du grand homme. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on se rend compte que ce document secondaire, on pourrait dire ce document pauvre, qui est le vêtement, eh bien, en fait, va lui permettre, en statuaire, de retrouver l'enveloppe d'un corps. Et c'est une association de plein et de vide qui se joue. Le corps du charretier, c'est le plein, presque le trop plein de la chair, et le vêtement, c'est le vide du grand homme disparu qu'il va falloir reconvoquer et refaire apparaître.
Pourtant, Rodin disposait de documents. Alors, vous l'avez évoqué, il y a des caricatures. Quelle est l'image mentale que Rodin pouvait avoir de Balzac à travers les caricatures? Il ressemble à quoi? Et là, je parle de la corpulence.
Elles sont doubles. D'un côté, on a des représentations honnête, si je puis dire. Et puis des caricatures d'un Balzac en habit 1830, chemise, gilet, redingote, pantalon. Et puis d'un autre, on a des représentations honnêtes, continuons sur cette idée, et des caricatures d'un Balzac en robe de chambre, robe de moine. Et en fait, cette dichotomie dans l'iconographie balzacienne, elle doit vraiment à Balzac lui-même, qui est d'un côté une sorte de prince des dandistes, un homme qui écrit sur la mode, et en 1830, la mode c'est le dandisme, et l'affectation, et le regard sur soi à travers le vêtement. Et puis, dans le même temps, Balzac, qui commence à se voir dans les années 1830, avec le succès qui arrive, caricaturé en habit 1830, veut reprendre possession de son image et demande à un peintre, Louis Boulanger, de lui tirer le portrait, et il se présente à Boulanger habillé en robe de chambre, robe de moine. Et là, il y aurait beaucoup de choses à en dire. C'est une chose qui étonne, et c'est peut-être l'idée chez Balzac d'être en démiurge, d'être en bénédictin du roman, d'être en inventeur d'un monde dans sa cellule. Il est vrai qu'il travaillait beaucoup la nuit avec force café. Et donc, l'iconographie dont hérite Rodin, ben pour commencer, elle est problématique. Parce qu'elle est celle d'un homme qui ne sait pas comment habiller, et que la caricature, qui toujours dit la vérité en la présentant de manière outrancière, représente telle qu'il semble-t-il fut, c'est-à-dire gros, petit et ventru.
Voilà, c'est ça, ce Balzac que l'on croise dans les caricatures. Il est globalement rond, cet homme-là. Et puis, il y a ce jeu sur la tenue, comme vous venez de le dire, entre l'élégance et puis la robe de chambre ou robe de moine, et de nouveau l'élégance. Il faut rappeler que Balzac est lui-même l'auteur d'un traité de la vie élégante.
Balzac. La toilette est l'expression de la société.
L'incurie de la toilette est un suicide moral.
Un homme devient riche, il naît élégant.
L'homme de goût doit toujours savoir réduire le besoin au simple.
La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l'homme élégant s'habille.
Dépasser la mode, c'est devenir caricature.
Le complet veston, c'est un costume qui nous vient d'Angleterre. C'est le costume de la bourgeoisie anglaise du XIXe siècle. C'est un costume dans lequel tous les ornements ont été, si j'ose dire, rétrécis. C'est un costume qui a été limé. Et c'est un costume qui se présente comme aussi neutre que possible. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est habillé normalement en complet veston, eh bien, on ne remarque pas son costume. C'est le zéro, si vous voulez.
Le zéro. Michel Butor, poète, écrivain en 1975 sur France Culture, après cette lecture du traité de la vie élégante de Balzac, parce que Marine Kiziel, au moment de chercher comment fonctionne cette statue de Balzac par Rodin, il y a aussi l'histoire de la mode. Vous êtes conservatrice au musée Galliera à Paris. L'histoire de la mode, mais l'histoire de la mode telle que vous l'avez approchée au plus près du corps, au sens où vous avez chez les tailleurs tous ces outils, tous ces éléments de mesure qu'on expose rarement, que l'on conserve aussi, j'imagine, rarement. Et là, ici, il y a une démarche qui est sensationnelle pour essayer de saisir comment la mode pouvait être pensée, mais dans les coulisses, dans l'atelier.
Pour moi, l'histoire tout court, l'histoire de l'art, l'histoire de la mode, en fait, c'est une histoire qui triangule entre divers univers mentaux, sociaux, et qui permet, je l'espère, de toujours mieux comprendre, je le fais à travers les œuvres d'art et les vêtements, et donc la mode, mais de mieux comprendre une société. Et effectivement, en allant derrière Rodin, à sa suite, trouver le petit tailleur Pion en Indre-et-Loire, je me suis permis d'aller plus loin et d'aller regarder ce que la corporation des tailleurs avait amené à son siècle, la manière dont elle se percevait et la manière dont elle appréhendait les corps. Parce qu'effectivement, les tailleurs sont des hommes, toujours des hommes, qui mesurent, qui se pensent en géomètres début 19e et qui se veulent presque comme des architectes du vêtement, en ayant conscience, et ils l'écrivent, qu'ils sont là aussi en train de mouler des corps par le vêtement. Et donc on retrouve cet univers mental partagé des statuaires et des tailleurs, et que ces corps qu'ils moulent, ils ne les moulent pas seulement de manière individuelle, dans une pratique qui est celle du sur-mesure, mais en ayant aussi l'ambition de mouler leur société. Et certains écrivent même que la mode change comme un moule que le temps brise ensuite, avec cette idée que un corps de 1830 ne sera jamais un corps de 1850 et moins encore un corps de 2025. Et c'est une vérité. Notre corps, et jusqu'à notre corps nu, semble-t-il, sont formés, conformés, déformés par ce fait social extraordinairement éclairé qui est la mode. Et donc, aller voir comment les tailleurs s'envisageaient eux-mêmes et leur rapport à leur société, c'était aller voir un petit peu ce que Rodin allait chercher lui aussi, en allant retrouver une redingote de 1830 chez un homme de 1845, le tailleur Pion, au moment où il rencontre Balzac et où il travaille pour lui, et comprendre que derrière la robe de chambre un petit peu informe à laquelle Rodin reviendra et qui fait le mythe d'un Balzac en robe de chambre, il y avait aussi le corps conformé par la redingote et l'habit de 1830 que d'abord Rodin cherche à explorer. Et les instruments de mesure du corps que j'ai retrouvés en menant cette enquête, ce sont en fait toutes sortes d'inventions que les tailleurs du premier 19e ont mis en place, ont breveté et ont présenté dans l'exposition moult brevets assez extraordinaires, qui sont des planches superbes, qui disent autant d'entreprises, de perfectionnement, d'une manière de mesurer des corps dans toutes leurs particularités. Gros, cambrés, petits, fins, malingres, tous les corps sont valables pour les tailleurs. Parce que leur art consiste, tel qu'ils l'envisagent, à amener ces corps dans leur singularité vers une forme d'idéal. Vous rentrez gros, vous rentrez petit, mince, immense ou cambré, et vous ressortez tel un Apollon du Belvédère de l'atelier de votre tailleur. Et la mesure ici est importante, parce que mesurer les corps, c'est chercher aussi des normes, et donc aller vers des inventions qui sont également celles des hommes de 1830. Il faut se figurer que l'indice de masse corporelle, nous connaissons toujours bien aujourd'hui le rapport poids-taille de l'IMC au carré. C'est une invention de 1832 d'un scientifique belge, statisticien, un petit peu amusant comme il y en a eu beaucoup au 19e, c'est-à-dire des hommes qui jouent avec des données et qui tentent d'en faire quelque chose, et qui s'appelait Adolphe Quetelet.
Le tailleur de Balzac avait conservé les mesures de Balzac ?
Le tailleur de Balzac avait prétendu les avoir conservés, mais les conservait dans sa tête. Et la tête du petit tailleur, on l'a mise à l'épreuve grâce à la complicité de la maison d'Ormeuil aujourd'hui, qui a toujours
C'est une vieille
qui
maison,
existe toujours, oui, à Paris, crois, voilà, oui. Et qui, en 1842, avait été fondée pour le commerce notamment de textiles. Et c'est une maison grâce à laquelle on a pu refaire, le tailleur de la maison d'Ormeuil a refait la redingote de Balzac aux dimensions données par le tailleur Pion, qui devait donc avoir une bonne mémoire, puisque quand on met côte à côte les images de Balzac et les caricatures et la redingote aujourd'hui refaite, on est face à des exacts mêmes. Ce qui pose des questions intéressantes, puisque la caricature est censée déformer, que la redingote est l'exacte représentation textile de ces caricatures, et que l'on se demande donc si c'était pas effectivement le corps de Balzac qui était lui-même caricatural, ce qui boucle la boucle du problème rodinien de savoir comment représenter un homme qui n'était pas fait pour être vu, en tout cas à la fin du 19e, dans toute sa réalité, puisque gros petit ventru, pour les gens de lettres, c'est pas possible en sculpture.
Ah, ça marche pas, c'est pas ça hein, la représentation mentale que nous pouvons avoir d'un homme de lettres, avec un document malgré tout qu'il faut évoquer, parce que caricature, gravure, etc., toute forme de dessin, et puis le daguerréotype, l'ancêtre de la photographie, nous disposons de cela aussi pour Balzac. C'est-à-dire que Rodin, au moment de penser son Balzac, a un document que nous pourrions considérer de première main en disant « il a une photographie, un daguerréotype de Balzac ».
Dans l'économie de la preuve qui est la nôtre aujourd'hui et qui est déjà celle du 19e où la photographie, effectivement née en 1839, dit la réalité, Rodin a effectivement entre les mains cette image de Balzac, qui est d'ailleurs la seule photographie que l'on conserve, d'un Balzac qui s'était fait tirer le portrait pour envoyer son image à Madame Anska en Ukraine. Et opportunément, il se fait tirer le portrait avec une chemise ouverte, c'est un petit peu... l'image amoureuse aussi d'un homme qui se présente en déshabillé, chose qui relève évidemment du domaine de l'intime, et qui dans sa grande chemise blanche est à la fois le corps puissant d'un homme créatif et sans doute celui qui veut se présenter à son amante avec l'idée d'une proximité que la distance entre eux déjoue incessamment. C'est très intéressant pour nous et pour le regard que l'on peut porter sur l'œuvre de Rodin, puisque ce qui émerge là, c'est l'idée du pli et de la toile blanche et de la robe de moine à la chemise des hommes du 19e qui s'y portent Balzac. Ben dans le fond, il n'y a pas seulement qu'un pas, mais qu'un seul univers. Et au moment où Rodin trempe une robe de chambre, peut-être colorée, dans le plâtre blanc, il retrouve en fait ce blanc du textile qui est aussi celui du linceul dans les traditions occidentales, du suaire depuis le suaire christologique, et qui est en fait le textile même prenant l'empreinte des corps. Et là encore, on retrouve le moule, on retrouve le moulage et on retrouve la dichotomie entre le corps présent, son empreinte et donc son absence potentielle déjouée par la forme sculpturale.
Nous tirons le fil peu à peu de 16 enquêtes, parce qu'il y en a tant. Il y a la vôtre, Marine Kiziel, il y a celle de Rodin lui-même sur Balzac, et puis il y a ces enquêtes, je ne peux même pas dire parallèles, puisque tout est tressé ici. On l'a bien vu, ça fait ici écho à la statuaire au 19e siècle, ça fait écho à l'histoire de la mode, et ça fait écho évidemment à l'histoire du corps. Très intéressant quand on réfléchit à ce corps de Balzac trop gros pour ce que l'on imagine d'un homme de lettres à la fin du 19e siècle. Vous assistez à cela, aux évolutions des perceptions du corps, et notamment du corps gros.
J'y assiste véritablement, le mot est excellemment choisi, au sens où, en travaillant la réception critique, c'est-à-dire les 1001 articles gardés par Rodin, qui était très très conscient de sa propre gloire et qui a beaucoup travaillé à la construire, en regardant ces 1001 articles qui parlent... du Balzac de Rodin qui n'arrive pas, en fait, la presse s'impatiente au fil des 7 années de la réalisation de cette œuvre. Je me rends compte effectivement que la question du costume revient tout le temps. Et je me rends compte qu'il y a là quelque chose à aller observer. Et je me rends compte que les adjectifs courts et émergent dans la presse qui ne disent jamais que Balzac est gros. Le mot n'émerge jamais, jamais, positivement jamais, mais qu'ils le disent toujours entre les lignes. Et donc on trouve dans mille et une phrases, in fine, hein, quand on en ressort uniquement ces petites pépites, que Balzac est massif, court, disproportionné, rondelé, disgracié de la nature, jugement de valeur, trapu, courteau, envahi par la matière, comique, horrible, ridicule, vilain, épais, grossier, ventripotent, lourdiforme, rustique, disgracieux, laid, graisseux, et je pourrais continuer encore longtemps. Et tout ça, ça dit une chose effectivement que... qu'on n'a pas l'habitude d'écrire dans les livres et que d'ailleurs peu de livres évoquent, qui est que le corps gros, au fil du 19e, est de plus en plus refusé. Début 19e, le corps gros est encore celui d'un homme ou d'une femme qui peuvent se nourrir, c'est-à-dire en fait qui ont cette richesse. Les femmes à taille de guêpe arrivent dans les imaginaires en 1830, 1840, donc il faut commencer à être mince quand on est une femme. On peut rester dans ces parages chronologiques, un homme ventripotent pourvu qu'on soit le gastrophore, c'est-à-dire en fait le bon vivant. Et puis, au fil du siècle, le culte de la minceur, dont nous avons reçu l'héritage, malheureux, se fait jour, et ce culte de la minceur impose que, pour être célébré, pour être un grand homme, on ne puisse plus être un gros homme. Et c'est ainsi qu'en fait des préjugés qui sont là aussi les fils de chaîne et de trame de nos perceptions sociétales, ce préjugé émerge, mais émerge toujours entre les lignes parce que le pire de ce que l'on refuse, on ne l'énonce jamais. Et ça m'intéressait d'aller voir, alors qu'aujourd'hui des militantes féministes, notamment depuis une dizaine d'années, parlent de grossophobie, c'est un mot qui est entré dans le dictionnaire il y a moins de 10 ans, alors que l'on cherche à faire une place à tous les corps dans une société qui, encore aujourd'hui, en refuse beaucoup, je me suis intéressée à cette manière dont les préjugés montent en fait comme une marée, qui empêche qu'à la fin du siècle, Balzac, le grand génie du roman du 19e, puisse se ressembler à lui-même lorsqu'il monte sur un socle.
La liste des synonymes que vous venez de nous lire, on peut la retrouver dans votre ouvrage, Marine Kézial, Dérobade, avec un S, c'est important. Rodin et Balzac en robe de chambre, c'est publié aux éditions B42, avec ce corps complexe de Balzac.
Il était gros, épais, carré par la base et les épaules, le cou, la poitrine, le corps, les cuisses, les membres puissants. Beaucoup de l'ampleur de Mirabeau, mais nulle lourdeur. Il y avait tant d'âme qu'elle portait tout cela légèrement, gaiement, comme une enveloppe souple, et nullement comme un fardeau. Ce poids semblait lui donner de la force, et non lui en retirer. Ses bras courts gesticulaient avec aisance. Il causait comme un orateur parle. Sa voix était retentissante de l'énergie un peu sauvage de ses poumons. Mais elle n'avait ni rudesse, ni ironie, ni colère. Ses jambes, sur lesquelles il se dandinait un peu, portaient lestement son buste. Ses mains grasses et larges exprimaient en s'agitant toute sa pensée. Tel était l'homme dans sa robuste charpente.
Un extrait des cours familiers de littérature en 1864 d'Alphonse de Lamartine, lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Raphaël Laloum. Avec Marine Kézial, on a beaucoup parlé de la caricature et de l'image ou des imaginaires liés à l'homme de lettres. Ici, on entend Lamartine. Comment vous dire ? Balzac ne peut être que gros. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que Rodin, malgré ses recherches, est la victime ou en tout cas participe à cet imaginaire-là. Quand il va chercher au plus près, dans une silhouette de la région de Tours, parce que Balzac vient de Tours, quand il va chercher chez le tailleur de Balzac des informations, il veut quitter peut-être cet imaginaire qu'on lui impose.
Je crois au contraire qu'il veut y coller au plus près et qu'il va être obligé de le quitter. Parce qu'en 1894-95, la Société des gens de lettres, qui lui a commandé un monument à livrer en 18 mois et qui, depuis 4-5 ans, ne voit rien arriver, la Société des gens de lettres s'impatiente. Et Rodin livre ce qu'il a entre les mains, qui est une étude qu'on appelle l'étude C, qui est un gros Balzac, plus fort que jamais. Et là, patatras, les gens de lettres sont confondus. Il n'est pas possible d'être ainsi Balzac et il n'est pas possible d'être ainsi un gros homme. Et donc, en fait, Rodin est mis devant le fait accompli. Pour vous répondre, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que il a cherché à aller au plus près de l'homme et de faire œuvre ainsi, et en fait, il ne le peut pas. Alors, Rodin ne va pas si bien. Il commence une petite dépression, va prendre les eaux en Auvergne, rentre dans des vapeurs qui devraient lui apporter un tout petit peu de sérénité, et revient se remettre à l'ouvrage à Paris, et bascule, et c'est aussi là de l'histoire de l'art dont on parle, bascule d'une démarche naturaliste à la Zola, qui était en fait celle du temps, aller chercher le document pour aller chercher la vérité dans la compilation des données, et bascule vers une forme qui émerge, qui est celle de la suggestion, plus malarméenne, suggérer, voilà le rêve, et le rêve du grand homme va passer par la suggestion d'un corps dissous, dont il ne reste en fait que ce que Lamartine avait lui-même souligné dans le texte qui nous a été lu, c'est que de Balzac, ce que surtout les contemporains retenaient, c'était la prunelle vive, l'œil d'aigle et la vivacité, le mouvement et l'esprit qui passait en fait par ce que le sculpteur ne peut jamais représenter exactement, qui est l'œil, le cristallin et la pensée à travers la fugacité du regard. Et la nécessité de cette bascule, elle se fait jour de manière cruciale, criante et un peu cruelle à Rodin. Et je crois que la robe de chambre symbolise ce moment de passage et peut-être aussi un agacement, un désespoir de sculpteur.
Marine Kiziel, vous avez accepté en début d'émission de nous conduire dans 16 aventures, je le dis bien, ces différentes enquêtes. Et puis vous voyez, après la statuaire, le corps, la mode, ici on assiste à ce passage chez un individu, mais on peut étendre du réalisme au symbolisme, et c'est ça qui est absolument fascinant, comme si Rodin avait voulu, par toute sa documentation, réaliser un Balzac au plus près de ce que le Balzac avait pu être, et qu'en fait, la réalité est impossible, et c'est ça qui est très fort, c'est que la réalité, on ne peut pas, c'est surtout d'ailleurs moins fort que ce que Rodin propose.
Oui. La réalité, on ne peut pas la représenter exactement parce que c'est le moment de le dire, la statuaire publique est le lieu de l'idéologie. Et c'est là qu'on le sent. Être gros, c'est être laid, c'est donc ne pas devoir être représenté. Et le dire, c'est mettre à jour ce que Paul B. Preciado, dans ce livre extraordinaire qui s'appelle Dysphoria Mundi, a dit très opportunément. C'est dire que la statuaire publique est le lieu des valeurs. Il parle, Preciado, de biopolitique sculptée. Et c'est véritablement ça, c'est prendre des corps pour en faire des outils politiques donnant à voir dans l'espace public, c'est-à-dire dans les espaces du commun, les rues, les squares, les parcs, les avenues. Et les Parisiens et les habitants de l'Occident au sens large le savent terriblement. Voir toujours le courage sous la forme d'un homme en armes, la vertu sous la forme d'un penseur la tête dans les mains, voire le triomphe sous la forme d'un ingénieur ayant repoussé les limites de la matière. C'est voir en fait, in fine, des corps d'hommes blancs triomphant dans ce que l'on considère être l'espace du triomphe, c'est assez limité en réalité, et disant in absentia, puisqu'ils sont tous morts au moment où on les représente, le 19e et aujourd'hui encore beaucoup ne célèbrent que ces morts, c'est-à-dire un passé réinventé, eh bien disant tous sur leur socle ce qu'il faut retenir et comment faire société. Mais dire ainsi, c'est exclure beaucoup, et c'est exclure donc toutes les vies, tous les corps, toutes les identités, toutes les inventions peut-être et les existences sans doute, qui ne sont pas considérées socialement comme célébrables.
Auguste Rodin lui trouve la solution, en tout cas il propose une solution, c'est son monument dédié à Balzac. Et avant cela, je vous propose, Marine Kiziel, d'explorer justement ces rues, ces parcs, ces avenues, à la recherche des monuments consacrés à Balzac, notre guide Bourvil.
Monsieur Balzac, je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un de vos bouquins. Oh oui, faudrait bien. Monsieur Balzac, là-haut du côté de Montparnasse, Monsieur Balzac, il y a votre statue sur une petite place. Vous avez l'air sévère, un peu comme mon beau-frère. Lui n'écrit pas, il est trop lourd, mais sa vie, ça ferait bien un prix Goncourt. Monsieur Balzac, vous avez dû en voir luire. Monsieur Balzac, pour avoir tant de choses à dire et tous les détails du revers de la médaille, vous les connûtes trop bien pour pas pleurer un brin. Monsieur Balzac, lorsque vous aviez le cafard, dites, Monsieur Balzac, le soir quand vous rentriez tard, devant une page, vous passiez votre rage, et au petit matin, vous aviez un bouquin. C'est très bien d'avoir du génie, ça vous donne un but dans la vie, mais c'est pas tout le monde qui a du talent. J'espère que vous étiez content, hein, Monsieur Balzac, du côté de l'avenue Friedland. Monsieur Balzac, vous avez encore un monument avec un autre au cimetière. On peut dire que vous êtes prospère, et vous devez bien avoir en plus quelque part une avenue où des gens rient, où des gens jurent, comme dans la littérature.
Monsieur Balzac par Bourvil dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un corps invisible en écho à l'exposition au musée Rodin consacré à ce monument réalisé par Rodin sur Balzac et cette robe de chambre. Marine Kiziel, vous êtes un co-commissaire de cette exposition. C'est quoi cette robe de chambre? En soi, c'est une œuvre parce que nous pensons à la statue où il y a un visage et il y a ce corps avec la robe de chambre, mais il existe aussi la robe de chambre seule. Alors, c'est une œuvre, c'est une étape de travail, qu'est-ce que c'est?
Ce dont on parle, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est d'une forme en plâtre conservée dans les collections du musée Rodin, c'est-à-dire conservée par l'artiste Rodin qui donne ce qu'il choisit de donner de son œuvre à l'État en 1917, en fait préparant sa disparition et l'édification ensuite de ce musée à sa gloire. Et ce dont on parle donc, c'est d'une forme de plâtre blanche, de la taille d'une robe de chambre que l'on aurait trempée dans le plâtre, fait tenir sur un corps, moulé, avant d'extraire du moule et le corps statuaire déjà, et la robe de chambre véritable recouverte de plâtre désormais séché, et que l'on aurait ensuite ce moule rempli d'une nouvelle gangue de plâtre, celle que précisément nous gardons et nous exposons, et qui est la version la plus pérenne de ce textile qui, à un moment, est un expédient efficace pour Rodin pour passer d'une étape à une autre de son travail et de ses réflexions. Et cette robe de chambre, donc, cette étude de robe de chambre pour Balzac, c'est une pièce qui est à la fois une œuvre, parce qu'aujourd'hui on lui reconnaît cette qualité, mais qui n'a jamais été ni signée ni exposée par l'artiste, qui est un artefact, au sens tout simplement où c'est un objet qui se tient devant nous, qui a été fait de main d'homme, encore que ce soit dans des processus techniques du moulage. Et c'est aussi une chose, au sens de Laurence Bertrand d'Orléac, qui est presque de la nature morte, mais c'est vraiment une nature morte, c'est celle-là. Et c'est enfin donc un grand mystère et un formidable petit objet qui amène à la résolution, en tout cas c'est ce qu'on a tendance à dire un peu trop rapidement, du monument final, et donc qui amène au grand Balzac monumental que Rodin exposera après 7 ans de travail acharné et, on l'a vu, laborieux, en 1898 au Salon National, au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Avec un gros bibelot, et il le dit ainsi pour amadir la réception critique un peu négative, c'est-à-dire le baiser. Et le baiser ne suffira d'ailleurs pas en fait à ce que, face à la jolie chose, la forme troublante qu'est le Balzac adoucisse les manières de voir cette œuvre si, si étonnante. Donc la robe de chambre, c'est un problème et une solution. Et c'est un objet auquel je me suis confrontée plusieurs années durant, parce que justement il est fascinant, et c'est aussi parce que à travers lui et à partir de lui, la trame et la chaîne de notre grand tissu documentaire et du grand tissu de cette société qu'on a déjà beaucoup évoquée, hein, qui est celle du 19e, eh bien se déplie. Et déplier la robe de chambre, c'est assez impudique, c'est très amusant, et ça permet d'aller voir beaucoup de choses d'un siècle qui n'est pas celui uniquement des grands triomphes Triomphe du roman, triomphe de Balzac, triomphe de la sculpture, triomphe de Rodin. Et donc, c'est un objet spécifique, particulier et en même temps mutique qui, sans sa tête, ne dit rien et vous laisse beaucoup dire.
Avec cette robe de chambre, parce qu'il y a eu une robe de chambre, celle qui a été moulée et que l'on voit. Que l'on voit, mais alors, tout petite comme ça, sur une photographie. Et c'est ça qui aussi est très touchant. Cette robe de chambre a existé. Et dans la démarche scientifique, Marine Kiziel, ça vous permet d'explorer l'archéologie expérimentale pour saisir comment Rodin, dans son atelier, pas seul, a pu œuvrer pour mouler cette robe de chambre.
Ça, ça a été une grande joie pour moi. L'archéologie expérimentale, c'est une chose que j'ai découverte avec des yeux immenses et émerveillés quand, toute petite étudiante, j'ai compris qu'on pouvait tenter de refaire des gestes qui dataient de milliers d'années pour, par exemple, refaire un propulseur préhistorique et comprendre comment on avait lancé des pointes de flèches au bout de grands bâtons pour tuer autrefois le gibier dont on pourrait se nourrir. Et puis, pour aller au-delà, l'archéologie expérimentale, c'est toutes ces démarches qui consistent à refaire des gestes du passé pour comprendre des techniques d'autrefois et des pratiques désormais oubliées. Mais on a tendance à laisser l'archéologie à l'archéologie, c'est-à-dire à l'étude de ce qu'on considère trop loin de nous pour être retrouvé exactement autrement qu'avec justement ces gestes. Et en fait, l'archéologie expérimentale, ça peut être simplement s'asseoir sur une chaise en formica et se rendre compte de la manière dont on pouvait se tenir sur un tel fauteuil dans les années 70. Et l'archéologie expérimentale par là, donc, c'est ce qui permet de comprendre comment on a vécu autrefois, quel que soit le passé et sa distance, il y a 20 ans, il y a 15 ans ou il y en a 100. Et donc, refaire la robe de chambre de... refaire la redingote de Balzac telle que l'avait faire Rodin, c'était déjà de l'archéologie expérimentale grâce à des tailleurs d'aujourd'hui. Et demander à des mouleurs, comme on l'a fait, qui travaillent pour le musée Rodin, de tenter de refaire les étapes du moulage de la robe de chambre, c'était essayer d'aller voir ce qu'on ne comprend pas en regardant l'objet, parce que ces techniques de création sont extrêmement obscures. Et il n'y a eu que par le geste que l'on a pu non pas approcher de la vérité, parce qu'on n'atteindra sans doute jamais, mais d'une proximité du geste créateur qui avait été celui de l'atelier, probablement de Rodin, bien plus que de Rodin lui-même, puisqu'il était entouré de plein de praticiens qui moulaient pour lui. Et c'était aller voir comment on moule un corps et on moule un textile quand on est sculpteur, et continuer notre pas de deux entre couture et sculpture, et voir comment cela se rapporte aussi beaucoup de la manière dont les tailleurs moulent les corps, et après les avoir mesurés, cherche à en garder une empreinte qui est en fait l'ancêtre du mannequin couture, dans leurs ateliers. Et là, c'était aussi retracer des généalogies, puisque l'un des hommes qui mesure les corps avec le plus d'efficacité, en tout cas dans la manière dont on l'a retenu, c'est un homme qui s'appelle Alexis Lavigne, fondateur de l'actuelle école S-Mode, toujours vivante aujourd'hui et qui apprend la mode et la pratique des tailleurs à bien des étudiants. Et Alexis Lavigne qui crée en fait cette évidence qui est le centimètre souple, c'est-à-dire le mètre couturière, le mètre ruban que nous connaissons bien dans les années 1830 et bien dans les années 50, va créer le prototype des premiers mannequins. Son élève, Frédéric Stockmann, est un homme dont on a retenu le patronyme parce qu'aujourd'hui, dans les ateliers de couture, aussi bien que dans plein de magasins et de boutiques, le mannequin sur lequel on met des vêtements ou sur lequel on coud ces fameux vêtements, eh bien, est un Stockmann. C'est passé dans le vocabulaire courant. Donc on est encore là dans la pratique du moulage et dans la manière d'aller garder des corps in absentia.
1891, la Société des gens de lettres choisit Rodin pour réaliser un projet qui date depuis quelques années déjà. Qu'ils sont kikinés parce que Rodin tarde. Et puis, il y a cette robe de chambre, vous nous l'expliquez, le moulage. Est-ce qu'on arrive à saisir ce moment où Rodin, qui a tant cherché le vrai corps de Balzac, la redingote, le vrai visage, en arrive à jeter tout ça et passer à une autre forme, quelque chose de complètement différent? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il se passe une chose, si on a envie d'y croire, c'est la grande mystique du génie. Donc là, on est dans le génie au carré. Rodin parle à Balzac et Balzac veut bien lui apparaître. Rodin, de guerre lasse, trempe une robe de chambre dans le plâtre et boum, génie. Il trouve son Balzac final. En fait, le génie, ça, c'est une chose à laquelle je crois guère, personnellement, parce que à travailler l'histoire des arts et puis à nous voir agir, nous tous qui ne sommes pas toujours génies au quotidien, on comprend combien de labeur et de travail, combien d'étapes, combien d'allers-retours, combien d'errances permettent d'arriver parfois chez les gens les plus talentueux, à de véritables réussites. Et donc, aller regarder la robe de chambre, c'était aussi se donner les moyens d'aller regarder un homme d'un talent indiscutable, Rodin, à un moment où il hésite, où il panique, où il ne sait plus exactement vers où aller, et où, en fait, à un moment, il a effectivement une idée assez géniale, mais qui en elle-même n'est pas un instant ni un instantané, puisque tremper une robe de chambre dans le plâtre, c'est donner à un textile qui va se gorger d'eau une gangue qui ne va sécher qu'au prix de longues semaines d'oubli dans l'atelier. Et donc, c'est déjouer, dire cela, la grande mystique du coup de génie, puisque la robe de chambre que nous regardons, c'est une chose qui a pris des semaines, en réalité, et qui n'est qu'une étape dans un processus. Et pour moi, regarder des processus, regarder des hommes et des femmes créateurs à l'œuvre, c'est revenir au geste créateur, dans lequel, à vrai dire, je trouve qu'il y a une belle mystique également, puisque le geste, la main, la pratique, et c'est là encore une question d'archéologie, sont si intéressantes. C'est un éloge de la main, en fait, que l'on fait à partir de la robe de chambre.
Et désormais, Balzac s'anime.
S'anime. Et toi, tu connaîtras Balzac comme si tu avais vécu des années avec lui.
Mais toi, bientôt, je te connaîtrai.
Tu cabosses bien son front. Tu exagères un peu la lip de sa bouche, ça marche.
Le Rodin de Jacques Doyon en 2017 avec Vincent Lindon et Isia Higelin. Comment est reçu ce Balzac? Parce que la robe de chambre est là, il lui met une tête, il lui met quelle tête d'ailleurs?
Point d'interrogation, point de suspension. Je vais répondre dans un instant, parce que c'est mon métier face à ce micro, mais je voudrais m'arrêter un instant sur ce qu'on vient d'entendre, qui est pour moi extraordinaire. On a entendu pour la première fois une archive dans laquelle il y a plein de silence, parce qu'on a voulu nous dire l'atelier. Et qu'on dit bien là, et on a entendu à la radio la latence, en fait, telle que le film peut la transmettre, de la création. Plein de silence, des actions, des bruits diffus, alors que ce qu'on a entendu auparavant, c'était la glose, la nôtre. On remplit les silences, en fait, avec beaucoup de certitude quand on tente de faire de l'histoire. Mais c'est intéressant aussi d'entendre que la création, c'est beaucoup de doutes. Et donc, quand il s'agit de mettre une tête, je ne sais pas si Rodin doute, mais je sais que Rodin a accumulé énormément d'études à partir, en fait, de ses premières hypothèses, puisqu'il a non seulement représenté le corps du Chartier estagé, sans tête, bien sûr, d'ailleurs, souvent en 1891-92, mais il a aussi moulé la tête du Chartier. Et à partir de là, il a, sur le réel d'une tête moulée, qui est donc absolument pas celle de Balzac, puisque c'est celle du Chartier, il a commencé à rajouter des cheveux, cette grande chevelure léonine, d'ailleurs, dont Gautier parle à propos de Balzac, et il a commencé à transformer, en fait, la figure d'un homme en ce qu'il appelle un masque, c'est-à-dire en une chose déformée, déformante, et c'est là une habileté de sculpteur que de savoir qu'à 3, 4, 5 mètres de haut, une fois qu'on a juché la sculpture sur son piédestal, il va falloir dire des traits, non pas seulement caricaturaux, mais déformés pour être expressifs, c'est-à-dire probants depuis le sol. Et donc, sur la robe de chambre, Rodin ne juge rien, mais sur la forme qu'il a trouvée et qu'il va réappréhender avec la terre, avec de petites terres cuites qu'il monte à la boulette, eh bien, il va rajouter une tête de plus en plus immense, dont il est, semble-t-il, très heureux, puisqu'il va l'éditer de manière encore plus monumentale après 1888. Et c'est ce qui vaut à plusieurs musées, mais par exemple aujourd'hui à la Maison de Balzac, d'exposer un extraordinaire grès émaillée de la tête et seulement de la tête de ce Balzac qui devient une œuvre à part entière. Et là, de nouveau, on est dans ce dont on parlait, c'est-à-dire les assemblages, le mix and match la grande poétique du fragment qui est celle de la sculpture 19e. La tête s'autonomise. Mais il faut dire qu'au-dessus de cette robe de chambre et au fait de ce grand corps qui n'est plus un corps mais l'idée d'un homme, la tête ne dit rien d'autre d'ailleurs qu'une idée de Balzac et n'est pas ce que l'on regarde de prime abord. D'où la réception critique si compliquée en 1888 lorsque le public et les gens d'aide pour commencer découvrent cette sculpture qu'ils ne savent pas comment regarder. Et on retient souvent les succès de scandales et l'histoire des refus au 19e. Elle est importante, mais il y a aussi toute une presse et tout un public pour accepter cette œuvre. Mais c'est une histoire du regard et de la transformation des formes et en fait de ce que Rodin apporte en statuaire à l'histoire de son art.
Et puis une histoire de présence et d'absence, parce que le titre de l'exposition au musée Rodin, « Corps invisible », je mets un temps entre le « un » et le « visible », « corps visible », « corps invisible », parce que l'absence, et là on touche à quelque chose qui est à la fois de l'histoire sociale et peut-être aussi de la philosophie, c'est que l'absence du corps, c'est le corps. C'est que juste cette robe de chambre vide, bah c'est le corps de Balzac, parce qu'une robe de chambre, elle ne tient pas comme ça si elle n'a pas un corps à l'intérieur.
Et on tombe, et on en arrive à des réflexions qui sont peut-être le ferment en fait de l'humanité et donc de ses productions artistiques. Qui sommes-nous? Quel corps habitons-nous? Quel corps laisserons-nous derrière nous? Quelle idée habitons-nous? Comment faisons-nous société? Comment faisons-nous individu? Comment faisons-nous monde? En fait, la robe de chambre, de manière métaphorique, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois le premier vêtement taillé dans la chemise du père, c'était une tradition en Occident, et sous l'Ancien Régime notamment, et c'est aussi le dernier linceul. Et donc quand Rodin emballe l'idée d'un homme désormais, et plus seulement son corps, dans ce grand textile, il cherche à aller vers la transmission d'un impalpable, que l'on appelle génie au 19e, à travers une représentation qui est encore figurative et qui dit encore l'homme par sa présence corporelle, mais tout en célébrant l'absence, puisque cette statuaire publique toujours dit de grand mort. Et donc, on en arrive à des endroits très beaux et en même temps à des impasses qui sont nos grandes questions existentielles.
Et c'est
vie,
ça.
Mort, présence, absence, culte, relique, génie, créativité. Qu'en faire ?
C'est en ça que moi j'ajoute aux créations de Balzac et à la création de Rodin, votre démarche, Marine Kiziel, qui est aussi une création. Et c'est ça qui fait que cette exposition au musée Rodin est passionnante. Et puis, bien sûr, il y a le livre en écho, un dérobade, Rodin et Balzac en robe de chambre. Ce sont des va-et-vient, et je pense qu'on aura compris la profondeur de cette pièce, une robe de chambre. Et c'est très beau aussi la démarche scientifique, comment on fait parler, alors une œuvre ou pas une œuvre. Merci en tout cas vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci.
Très belle exposition.
Remarquable, cette exposition. Oui, vraiment remarquable. Ouais. Ah, tiens. Curieux, ce centaure. On dirait un centateur ou à raison de l'époque de la pierre à briquet. Ouais. Ah. Mais Dieu me donne, ce n'est pas possible.
Je n'ai toujours pas le moindre vêtement, et si je tente de quitter ce hall, je vais me faire alpaguer comme un vulgaire satyre. Je suis pigeonné. Comme dirait le colonel, je suis le satyre aux pigeons.
Pierre Dac, hein, le penseur de Rodin version Pierre Dac. Ah bah oui, ça ne s'invente pas. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Tom Hundenstock. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.